Voici l'actualité de la semaine, l'accent des autres avec les médias francophones publics, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada et la RTBF. Et nous allons largement revenir tout d'abord sur ce drame au Mali. 13 soldats français tués en début de semaine, Amélie Tulé.
Oui, lundi soir à la nuit tombée, 13 soldats de l'opération Barkhane sont morts dans la collision de deux hélicoptères, des appareils venus en renfort pour détecter des combattants djihadistes. L'événement a relancé le débat au Mali sur la présence militaire française.
Et dans ce contexte, la France, Éric Delvaux, se prépare à rendre hommage à ces 13 soldats.
Oui, ce sera lundi un hommage national sur la place des Invalides à Paris à la demande du président Emmanuel Macron.
En Belgique, Jacques Cremers, les députés étudient la possibilité d'élargir les conditions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse.
La proposition permettrait d'avorter jusqu'à 18 semaines de grossesse, mais le monde médical lui-même est divisé sur cet élargissement.
Au Québec, à présent, Manon Glominski, les députés de l'Assemblée nationale dénoncent à l'unanimité la cyber-intimidation des femmes.
La motion adoptée souligne que la violence des propos est souvent pire envers les femmes et que l'hostilité freine leur engagement politique.
Enfin, en Suisse, Laurent Caspary, on retiendra un rapport très attendu sur la téléphonie mobile. Il a été rendu public cette semaine.
Très attendu car il doit donner le cap sur le déploiement et les risques pour la santé de la fameuse 5G.
C'est la plus lourde perte en vies humaines pour l'armée française au Mali depuis son déploiement en 2013. Amélie, 13 soldats sont donc morts lundi soir dans le nord-est du pays.
Oui, cela s'est passé dans la zone dite des trois frontières, le Liptako-Gourma, un territoire très vaste à cheval sur trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est la région où se concentrent les efforts militaires ces derniers mois. C'est là qu'une centaine de soldats maliens ont été tués aussi depuis début septembre dans des attaques très bien organisée, menée par les djihadistes. Lundi soir, donc, cela faisait plusieurs jours que les militaires français combattaient des hommes de l'État islamique au Grand Sahara. En fin de journée, un pick-up est repéré. L'affrontement commence. Un cours d'eau empêche les soldats français d'avancer. Ils demandent donc un renfort aérien. Et c'est là que la collision entre les deux hélicoptères a eu lieu.
Oui, et trois jours plus tard, ce groupe djihadiste dont vous avez parlé, l'État islamique au Grand Sahara, revendique, il dit, être à l'origine de cet accident parce qu'il aurait tiré sur les hélicoptères.
Faux, l'accident n'a pas été provoqué par un tir ennemi, c'est ce qu'a répondu ce vendredi le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre sur RFI. Il est aussi revenu sur le sentiment anti-français qui se développe au Mali, où l'opinion comme la classe politique est divisée sur ce sujet. Il y a ceux qui disent que la situation sécuritaire ne s'améliore pas avec la présence de l'armée française, ceux qui accusent cette armée française d'être là pour faire main basse sur les ressources du sous-sol malien. Des accusations démenties vigoureusement sur notre antenne par le chef des armées. D'autres, au Mali, estiment au contraire que l'armée malienne et la mission des casques bleus, la MINUSPA, ne peuvent pas se passer de l'appui des soldats français de Barkhane dans la lutte contre les groupes armés.
Oui, pendant que la lutte contre le terrorisme se poursuit, la France, Éric, se prépare de son côté à un hommage national à ces 13 soldats morts au combat.
Oui, l'hommage aura lieu lundi dans la cour des Invalides à Paris à la demande du chef de l'État. Emmanuel Macron souhaite y associer l'ensemble de la nation avec, par exemple, la présence d'enfants originaires des départements dont sont issus les 13 soldats morts dans le crash de leur hélicoptère. Mardi dernier déjà, les premières cérémonies commémorielles ont eu lieu dans les villes de Gap ou de Pau, deux villes en deuil puisque c'est là que sont basés les régiments concernés, le 4e régiment de chasseurs et le 5e régiment d'hélicoptères de combat. Ces 13 morts représentent la plus lourde perte de l'armée française depuis ces 36 dernières années.
Alors dans ce contexte, est-ce que ce drame est de nature ou pas à remettre en cause la présence des forces françaises dans cette région du Sahel, Éric ?
Et bien sur ce point, le chef d'état-major des armées françaises a été très clair, pas question de remettre en cause l'engagement français dans cette région qui couvre la Mauritanie, le Mali, le Niger jusqu'au Tchad et le Burkina Faso plus au sud. En revanche, les modalités opérationnelles pourraient être revues pour une plus grande implication des forces européennes. C'est en tout cas le souhait du président Macron. Cette présence militaire française baptisée opération Barkhane représente près de 4500 soldats soldats français. Et c'est à elle seule la moitié des forces françaises engagées à l'étranger. Elle est présente en Afrique sous cette forme depuis 2014. Sa mission est de protéger les populations menacées par les organisations djihadistes. Elle est aussi de former les militaires locaux qui essuient de lourds échecs pratiquement chaque semaine.
Alors le Canada, Manon, était présent au Mali au sein de la MINUSMA, c'est la mission de l'ONU pour la stabilisation au Mali. Je dis « était » parce que les Canadiens y étaient jusqu'en août dernier. Est-ce qu'ils vont y retourner ?
C'est vraiment la grande question. Le gouvernement nouvellement élu se fait avare de commentaires, mais on peut parier que Justin Trudeau va en entendre parler au sommet de l'OTAN la semaine prochaine à Londres.
Oui, et on ajoutera encore que la Belgique est présente au Mali. Elle fait partie de cette MINUSMA, cette mission des Nations Unies donc, dont on vient de parler. Elle y maintiendra sa présence en 2020, l'année prochaine, donc avec 120 militaires.
L'accent des autres.
La Belgique, précisément, avec un dossier éthique important. Cette semaine, Jacques, un pas vers un élargissement des conditions d'accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse.
Ce n'est encore qu'un premier vote intervenu dans une commission de la Chambre des représentants, mais c'est néanmoins un pas vers une modification de la législation actuelle en matière d'avortement. L'intention est de supprimer les sanctions pénales en cas d'infraction pour les femmes et pour les médecins, de réduire le délai de réflexion de 6 à 2 jours, mais aussi d'autoriser une IVG jusqu'à 18 semaines de grossesse au lieu de 12 actuellement. Cette proposition de loi divise cependant les praticiens, notamment en raison de la nature de l'acte technique qui devra être posé. Nicolas Picard est gynécologue.
Dans ma pratique clinique quotidienne, c'est des demandes auxquelles on fait face plusieurs fois par an et où on est effectivement dans une certaine hypocrisie à l'heure actuelle puisque ce sont des femmes qu'on doit bien entendu actuellement envoyer à l'étranger avec bien sûr des biais sociaux. Tout le monde ne peut pas se permettre ces soins à l'étranger. Donc je pense que dans ce sens-là, cette loi va sans doute vers une plus grande égalité dans les soins et je pense qu'il n'y a pas un seul médecin qui pourrait être contraire à ce principe. Maintenant, en tant que clinicien dans un centre hospitalier public, je peux me sentir concerné au premier chef davantage sur, je dirais, la mise en application de cette loi si elle est votée.
Car en effet, le texte est encore loin de la fin de son parcours législatif. Pour l'heure, le délai légal pour pratiquer un avortement en Belgique reste donc à 12 semaines, comme dans 17 autres pays en Europe. C'est d'ailleurs le délai légal le plus répandu, bien en deçà des 22 semaines autorisées aux Pays-Bas, là où se rendent précisément de nombreuses femmes belges qui ont dépassé le délai de 12 semaines de grossesse. Selon les derniers chiffres disponibles, on les estime à environ 500 par an.
Et voilà donc pour l'Europe. Alors un mot du Canada, qu'en est-il chez vous, Manon ?
90% des avortements se font à moins de 12 semaines de grossesse, mais techniquement, il n'y a pas de date limite légale.
Alors, on va rester précisément au Canada avec cette fois, Manon, un vote symbolique, mais important, cette semaine à l'Assemblée nationale au Québec, une condamnation unanime de la cyber-intimidation envers les femmes.
Ça s'est fait dans le cadre de 12 jours de sensibilisation à la violence envers les femmes. Et même si à Québec, comme à Ottawa, on célèbre un nombre croissant de femmes en politique, le débat de cette motion a été l'occasion d'entendre que plusieurs des tweets que reçoivent les femmes députées sont violents, choquants et s'en prennent souvent à leur intégrité physique. On va entendre la députée de Québec solidaire, Catherine Labrie.
Voici des exemples de mots reçus par moi et par les 4 autres femmes de mon caucus. Pauvre dingue! Maudite folle, quelle conne. Tu es une maudite sans génie. Tu es une bonne à rien, tu ne comprends rien. Va chier la brebis. Si j'étais ton fils ou ta fille, j'aurais honte de ma mère.
Je n'ai pas tout laissé, Olivier. Il y a des menaces de violence physique, bien sûr, des menaces de viol même.
Oui, alors est-ce que, Manon, on peut punir cette cyber-intimidation?
C'est souvent difficile de poursuivre en justice, alors on explique aux femmes députées comment se protéger et parfois elles obtiennent même la protection de policiers comme cette ministre fédérale, Catherine McKenna, qui durant la campagne électorale dernièrement a reçu des menaces dirigées même contre ses enfants et a vu son local de campagne tagué d'une grossièreté à la peinture rouge.
Voilà donc la cyberintimidation et plus largement, bien sûr, les violences faites aux femmes. On notera à ce propos, Jacques, que 10 000 personnes ont manifesté tout récemment en Belgique.
Oui, c'était dimanche dernier, veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elles réclamaient plus de moyens, plus de prévention, un plan d'action national pour unifier les pratiques. On en a marre de compter nos mortes, a-t-on entendu dans le cortège. Et pourtant, cette semaine encore, une femme est décédée sous les coups de son mari près de Namur, portant à 23 le nombre de féminicides commis cette année en Belgique.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Et nous allons terminer en Suisse avec la 5G qui fait peur. Plusieurs cantons freinent le développement de cette technologie liée à la téléphonie mobile. La Confédération avait donc demandé un rapport à des experts pour faire la lumière. Eh bien, il a été rendu public cette semaine. Conclusion, Laurent, le débat sur la 5G n'est pas prêt de s'arrêter.
Aucune recommandation précise, aucun cap clair et surtout aucune réponse sur la dangerosité éventuelle que pourrait représenter la 5G pour la population. Divisés, les experts du rapport Téléphonie et rayonnement n'ont pas pu lever les doutes. Ils recommandent d'intensifier la recherche pour mieux caractériser les risques et mettre sur la table 5 options pour déployer cette technologie dans le pays.
Et au cœur de ces différents scénarios, il y a, Laurent, les normes de rayonnement des antennes.
Oui, en Suisse, pays de la prudence s'il en est, les normes sont 10 fois inférieures aux recommandations de l'OMS. Les opérateurs téléphoniques plaident avec insistance pour un relèvement de ces valeurs. Ce rapport devrait aider aussi à éviter le flou qui se crée dans les différents cantons. En effet, face aux inquiétudes des citoyens, eh bien, certains gouvernements régionaux ont décrété un moratoire ou suspendu la construction de nouvelles antennes. Et cela pourrait avoir pour conséquence de ralentir de plusieurs années le développement de la téléphonie mobile dans les villes. Or, selon le rapport, dans certaines d'entre elles, il ne reste plus que 2% de capacité de transmission. Les réseaux pourraient vite être saturés.
Voilà la 5G en Suisse, donc la 5G dont on parle évidemment partout en Europe. Et avant de se quitter, un mot également, Amélie, du continent africain qui s'est aussi lancée dans cette course à cette nouvelle technologie.
Oui, certains pays comme le Lesotho, l'Afrique du Sud ou encore le Gabon, Libreville par exemple, a lancé vendredi dernier un test grandeur nature de cette technologie dans 2 quartiers de la capitale. Mais c'est encore de la science-fiction, hein, cette 5G tout de même pour beaucoup d'habitants du continent car les inégalités sont grandes. Par exemple, si au Nigeria, plus de la moitié des habitants ont accès à Internet, ils ne sont même pas 2% en Somalie ou au Burundi.
Merci Amélie Tullet pour RFI et merci à tous. L'accent des autres va se refermer ici. C'était l'essentiel de l'actualité francophone avec les médias francophones publics.